longtemps, après que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues.
Et oui, chers amis d'ARFM, l'âme des poètes va vous envahir durant tout ce mois de mars. Daniel au micro pour cette puce spéciale Printemps des poètes qui va vous mener sur les traces d'une artiste albertivillarienne pas totalement inconnue pour nos auditeurs. Elle manie le verbe comme elle dessine ou performe avec grâce et élégance, le tout agrémenté d'un zeste de fantaisie voire de folie tout artistique bien entendu. Elle nous invite dans les méandres de ses rêves en nous recevant au micro, moi et vous bien sûr, dans son repère albertivillarien nimbé ce jour-là d'un soleil magnifique. Suivez-moi donc.
Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère et leurs chansons qui rendent gaies, qui rendent tristes. Filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
Bonjour Catherine Gilles-Alcala.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui, exceptionnellement, parce que c'est un privilège, dans l'antre de l'artiste Catherine Gilles-Alcala. C'est une artiste que vous avez un petit peu connue il y a quelques temps. Les plus fidèles de nos auditeurs se souviennent peut-être d'une émission qui date du tout début de cette année où Catherine nous susurrait une suave poésie qui s'appelait...
Alors, c'est des poèmes sur le thème de la nourriture qui faisaient partie du recueil « La somnambule dans une traînée de soufre ».
Et qui s'inscrivait à cette époque-là dans une exposition d'une galerie parisienne. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, c'était une exposition collective qui s'appelait « Manger ». Donc, le thème est clair, c'était voilà, sur la nourriture. Et j'avais beaucoup de poèmes sur la nourriture, voilà, dans...
Oui, c'était bien dans la thématique de l'expo.
Voilà, exactement.
Et alors, les visiteurs étaient invités à s'installer sous le casque. C'était la seule installation, si on peut dire, de ce genre-là. Ça a eu un certain succès. Vous avez eu des retours de ces auditions?
Oui, les galeristes m'ont dit qu'elles avaient eu des bons retours et il y a des personnes qui ont acheté mes livres, mais je sais pas qui les a achetés.
S'ils ont acheté, c'est qu'ils ont apprécié, donc voilà.
J'espère, oui.
Là, c'était le petit bout de la lorgnette, parce que notre artiste a des multitudes de talents, et je veux dire qu'on est dans un local, atelier, je crois que c'est son lieu de vie aussi, mais alors on est entouré de vestiges d'autres expositions, de dessins en cours, à venir. Ça présente combien d'années de création ici?
Combien d'années de création? Pas mal, au moins 15 ans. Je suis pluridisciplinaire, donc je suis dans plusieurs disciplines. Donc je fais du théâtre, des performances, de la poésie, donc j'ai publié plusieurs livres, et puis aussi des œuvres plastiques, j'ai des objets, des poupées sculptures, parce que ce n'est pas vraiment des poupées, qui faisaient partie d'une exposition spectacle avec des poèmes et des poupées sculptures. On peut appeler ça des poupées sculptures.
Oui, oui, j'approuve le terme.
Voilà. Et... Ce sont des poupées, les gens vont se faire.
Oui, non, ce n'est pas des poupées pour mettre sur la cheminée spécialement, mais c'est au contraire. Ça représente des univers extrêmement différents, certains éclectismes. Par contre, sur la petite table qui nous sépare, il y a une pile de bouquins qui sont l'œuvre également de Catherine, entamée il y a quelques années.
J'ai commencé à publier en 2015. J'ai publié depuis 2015 6 livres. Mais j'écrivais bien avant de publier, en fait. Mais pendant très longtemps, je ne montrais pas mes textes. Je pensais et je ne pouvais pas les lire devant des gens. J'y arrivais pas.
Oui.
Ma voix se bloquait. Oui. Et à un moment donné, il y a eu un déclic. Et j'ai commencé à faire des spectacles avec mes textes. Voilà, depuis 2009. Avant. Mais avant, c'était des tout petits textes. Et puis les textes se sont agrandis avec le temps, voilà.
Vous avez commencé par le texte, de toute façon.
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai commencé par le travail de texte.
Et alors après, ça s'est agrémenté d'autres moyens d'expression, parce que je vois aussi toute une pile de dessins, de peintures.
Oui, bah c'est ce qui est amusant, c'est que j'avais une passion pour le théâtre, mais avant j'avais une passion pour la danse. Quand j'étais toute petite, et on m'a empêchée d'en faire, parce que ma prof de danse voulait me faire rentrer à l'opéra de Paris, et mes parents m'empêchaient. Et alors pour moi, c'était un drame. Après, je me suis mis au théâtre.
Une vocation contrariée.
Ouais, une vocation. Et c'était très jeune, hein, j'avais 4-5 ans.
Ah oui.
Oui, j'étais très jeune.
Oui, en général,
et c'était traumatisant comme ça. Et après, donc, je me suis rabattue sur le théâtre, et quand j'avais 18 ans, je pensais que je voulais être comédienne et uniquement ça. Et je pensais que j'étais vraiment sûre de moi. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, j'ai dérivé. Dans plein de choses, en fait. Donc, on se fait des idées comme ça, de ce qu'on veut faire. On est sûr que c'est ça. Et puis après, ça s'ouvre,
oui,
en fait.
Oui.
Mais en fait, les artistes ont souvent été pluridisciplinaires. Il n'y a que très récemment qu'on s'enferme. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le théâtre, j'ai travaillé avec des metteurs en scène qui avaient des très fortes personnalités. Mmh. Et c'était vraiment passionnant. Mais je me suis rendu compte que je me sentais enfermée dans l'univers du metteur en scène. Et pour pas me rester enfermée, parce que j'ai quand même eu la conscience très tôt qu'il fallait développer son propre langage, son propre univers, et ben je me suis dit, j'ai pratiqué l'improvisation et je me suis mis à écrire. Voilà. J'ai oublié de dire, d'ailleurs, j'oublie toujours des choses, que j'ai fait aussi de la musique.
Et
quand
oui.
tu m'as connue, je faisais de la musique.
Oui, parce que on se connaît depuis un certain temps, on pourrait effectivement employer le tutoiement. Tu avais déjà eu une vocation contrariée quand tu étais très jeune. Après, tu t'es dit, je vais quand même...
J'ai eu l'intuition. J'ai senti qu'il ne fallait pas se laisser enfermer, qu'il fallait développer son propre univers.
Voilà.
Et c'est vrai que quand même, j'avais quand même une ligne sur thématique depuis que j'avais 4 ans, donc depuis que j'étais toute petite, qui est que je me suis passionnée pour les rêves. Depuis que j'avais 4 ans. 4 ans, j'étais passionnée par les rêves et la danse. Ben, en fait, j'étais passionnée par l'inconscient. Je ne savais pas que ça s'appelait l'inconscient. C'est-à-dire que je voulais devenir folle. Quand j'avais 4 ans, je voulais devenir folle. C'est-à-dire que je voulais m'échapper de la réalité. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que l'origine du théâtre, c'est ça. L'origine du théâtre, c'est les transdionysiaques. Et les transdionysiaques, ben, Dionysos, c'est le dieu de la transe et de la folie. Et moi, c'était la première chose.
Tu avais redécouvert d'une façon naturelle, intuitive.
J'ai réinventé ça. Intuitivement, j'ai senti ce que c'était, d'où ça venait, en fait, de l'inconscient, de la transe, de la folie. C'est une folie contrôlée.
Quand on parcourt tes écrits, etc., on voit que c'est quand même un thème qui revient. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est prégnant chez toi. Et ça, c'est apparu très tôt chez toi. Donc,
oui, c'est quelque chose qui m'a passionnée depuis toujours. J'aime pas le matérialisme, j'aime pas être terre à terre, en fait. J'ai besoin de m'envoler, de m'évader, de partir ailleurs dans l'imaginaire, dans l'inconscient.
Ouais. C'est du rêve éveillé ou c'est du rêve, tu fais vraiment des... Il y a les deux.
Mais bon, c'est vrai que je me souvenais de mes rêves depuis très longtemps. Bah, comme les rêves, il suffit de s'y intéresser. Hein. Donc, je me souviens de mes rêves, et puis je les ai écrits, j'ai fait des œuvres avec. Mais il n'y a pas que ça non plus.
Non, bien sûr. Tu as commencé par créer des pièces ou des performances?
Alors, j'ai commencé par le théâtre et par le théâtre de texte. Mais j'ai aussi fait du... Bon, ça, c'est il y a longtemps, mais c'était en 2000. Ah ouais, bah ça fait presque 20 ans, en fait, voilà. J'avais travaillé sur une forme théâtrale qui était... où il n'y avait quasiment pas de texte, en fait, sur du théâtre d'image. Mais il y avait un peu de texte, quand même. Il y avait un peu de texte. Il y avait des poèmes, tout ça. Mais il n'y avait pas une prédominance du texte, en fait. Voilà. Ça, c'est mes premières créations.
Tu jouais avec le corps, alors tu...
Il y avait des images. On a essayé...
C'était la danse qui revenait vers toi.
Oui, bon, mais j'adore la danse.
C'est pas partiellement interdit.
J'adore la danse. Mais c'était pas vraiment de la danse, c'était des images. On avait fait tout un travail d'improvisation. On s'était nourri. On avait lu des textes de fous, dans l'art brut. Il y avait un texte, je me souviens, d'Auguste Netter. Tiens, je me souviens de son nom, là, ça m'est revenu. Et qui avait fait tout un texte sur ses hallucinations. Et on avait lu aussi le livre des morts tibétains, que je trouvais extrêmement amusant. Qui est extrêmement amusant. Parce qu'il y a un passage dont je me souviendrai toujours, c'est... C'est après la mort, on doit se réincarner. Et puis il disait, bien que tu sois haché en 1000 morceaux, tu ne peux mourir. N'aie pas peur. En gros, c'est ça. Et je trouve ça drôle.
Oui, je trouve ça drôle.
Bien que n'aie pas peur, bien que tu sois haché en 1000 morceaux, tu ne peux mourir. Voilà. Donc.
Vision optimiste.
Non, haché, oui. Non, c'est peut-être pas haché. Enfin, c'est à peu près ça, le contenu. Non, ça, c'est juste un extrait parce que ça m'avait. Sauter, c'était tellement énorme que c'est en fait, c'est, je trouve ça hyper drôle.
Mais tu parles de on, c'est-à-dire que tu avais déjà une petite compagnie, tu as créé une petite compagnie.
Ah, j'avais travaillé avec des comédiens.
Des comédiens.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, voilà,
C'était une création. Ouais.
Et quand, justement, quand on parle de création, de compagnie, tu as assez vite créé une maison d'édition.
Oui, alors en fait, c'est Joël Marette qui a créé, il va être content que je parle de lui pour une fois, qui a créé les éditions La Maison Brûlée pour publier mes textes.
Oui,
voilà.
Oui, voilà. Donc, voilà. Des éditions qui
ça sont... fait longtemps que je travaillais avec lui et moi je pensais pas du tout à publier mes textes. À vrai dire, je ne pensais pas parce que j'ai fait aussi des spectacles avec des poèmes. Faut dire que je suis quand même beaucoup dans la poésie. Même quand je fais du théâtre, j'appelle souvent ça du théâtre poésie parce que c'est pour exprimer le fait qu'il y a un travail sur le langage. Pour moi, c'est très important. Il y a une matière particulière.
Quand on lit un texte de Catherine Villalcala, on voit qu'il y a un langage recherché, même si les thématiques peuvent être des fois crues, peuvent paraître aux gens crus, mais c'est toujours dit avec beaucoup de poésie et beaucoup de recherche dans le langage.
Moi, ce que j'aime, c'est les mots. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très intéressant, une personne comme ça que je ne connaissais pas, qui a lu un de mes textes. Elle regarde le texte et elle dit « Ah, il y a plein de mots que je ne connais pas. » Je lui dis « T'es sûre ?» Et elle le relit, elle dit « Ah ben non, en fait... » Elle le relit et je lui dis « Alors, qu'est-ce que tu ne connais pas comme moi ?» Elle dit « Ah ben non, je connais tous les mots. » Mais c'est la façon...
Mais c'était la façon
dont les mots étaient agencés ensemble qui faisait qu'elle pénétrait dans un autre univers.
Elle n'en avait pas l'usage.
Elle avait eu l'impression qu'elle ne connaissait pas les mots. En fait, elle connaissait les mots. Elle connaissait les mots. C'était ce poème-là.
C'est pas obscur du tout, je vous rassure.
Je peux lire ce poème dont elle avait dit ça. Voilà. Et alors, c'est « Milliards de la pluie dans les yeux du ciel ». Trois araignées esquissent des pas de danse dans l'au-delà, des ascètes déjeunent de quelques amandes, une dame vient, elle est nue, et un faune porte à la table une mandarine pourrie, des fruits pelés, un pied de persil et une éponge dégoulinant de sang. Voilà.
Oui,
Donc en fait, on connaît tous les mots.
Oui, c'est peut-être le mot faune qu'elle avait peut-être l'usage très courante.
Voilà, dans la vie quotidienne, on n'utilise pas le mot faune, ni ascète.
Mais oui.
Mais c'était la façon dont elle avait eu l'impression qu'il y avait des mots qu'elle connaissait.
Que ça pouvait exprimer des choses relativement simples, des choses compréhensibles par tout le monde.
C'est ça. On peut réinventer le. C'est ce que je disais l'autre jour à la Maison des Langues, d'ailleurs, justement. Je disais qu'on pouvait réinventer une nouvelle langue dans sa propre langue. Parce qu'il y a des fois ne même plus être compris des gens qui parlent la même langue que nous. Mais de toute façon, je pense que l'écriture, c'est réinventer un nouveau langage et pour réinventer un nouveau monde. En utilisant des mots...
Qui existent pourtant,
on peut leur donner un éclairage totalement surprenant, totalement personnel.
Tu peux nous en donner encore une petite...
celui-là
Alors, à ton choix. Ton œuvre, c'est tes œuvres.
Alors, pas trop long parce que...
Oui.
Alors, je vais lire un comme ça va, un extrait de Zoartoïste.
Voilà.
Des milliards de pieds dansent dans la course du soleil. Des vipères du levant s'enroulent dans les boucles des gorgones. Du venin serpente dans la peur saoule des sens dévoyés. Des images empoisonnées des mirages. Des paysages sans images ne s'accrochent à rien. Dans le vide déstructuré pullulent des visages invisibles, des indivisibles cris, les cris à l'unisson des hallucinations. Les fantômes coulent dans la foule océanique, murmurant des rumeurs en sanskrit. Des sons hérissent l'espace ensorcelé. Les glossolalies sont les voix des sons, les 1000 morceaux des percussions des voix de la foule.
c'est de la musique, quoi. C'est de la musique.
C'est des images et de la musique.
Oui, tout à fait.
Et l'autre jour, à la radio, sur France Culture, ils ont dit ça, et c'était tout à fait juste. Ah oui, c'était un poète qui a dit ça. Ah, je ne me souviens plus de son nom, mais il a dit que la poésie, ce n'était pas tant de la littérature que de l'art, en fait. C'est plus de l'art que de la littérature. La poésie, dans la poésie, il y a le sens, il y a un sens, bien sûr, la poésie, mais il n'y a pas que le sens. Il y a des multiplicités de sens, il y a des images et il y a de la musique.
La musique, des mots.
Et c'est ça qui est beau dans la poésie.
Et tu as une très belle voix, en plus.
En plus, je pense que j'ai bien fait lire ce poème-là, parce que je vais essayer de faire un radio-trottoir poésie et faire rire la rue, d'en faire poétiser la rue et de demander aux gens de la rue de lire mes poèmes pour entendre plein de voix, les voix de la foule, les voix de pour le printemps des poètes à Aubervilliers. Et comme ça se termine par les 1000 morceaux des percussions des voix de la foule. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, ça correspond au radio trottoir que je voudrais faire à Aubervilliers.
Et que tu as déjà commencé à faire d'ailleurs.
Pour le printemps des poètes à Aubervilliers.
Oui, oui.
Les femmes de camp, j'étais petit, s'obligeaient à vivre tout en noir. Un foulard sur leurs cheveux gris, bouquets fanés dans leurs armoires. Les femmes de camp, j'étais petit, n'avaient pas le temps de s'asseoir. Un grand vide dans leur lit, mais ça, je l'ai compris plus tard. Sur la petite photo jaunie, les veuves sentinelles de mémoire, leurs yeux durs, larmes taries, moi dans leurs jambes naïfs regards. Comme sur un des seins de Tardy, une lumière fracture se rempart. Ton visage brune jolie et seul sourire gorgé d'espoir. Toi Marcel, avec deux ailes, dont une fracassée par la vie. Toi Marcel, avec deux ailes, dont une fracassée par la vie. En écrivant ta vie ma belle, le scénariste était aigri. Tu aurais pu n'être que fiel et geindre en veine psalmodie. La douleur était rédemptrice, du moins pour quelques bien-pensants. Ils prétendirent te guérir en te massacrant les tympans. Tu sus gommer tes cicatrices, garder ce timbre adolescent et savoir délivrer ce rire, dire qu'il est parfois des obsessions dont il vaut mieux savoir sourire, traité par la dérision. Tu as soufflé sur l'étincelle pour faire jaillir l'embellie. Avoir vécu deux guerres mondiales et vu mourir les utopies, c'est pas mal pour une hirondelle qu'aurait pas dû quitter son nid, d'avoir parcouru 100 étoiles pas à pas, petit à petit. Le temps passe, le temps a passé, ta voix est restée cristalline, ton rire ne s'est pas fendillé, discrète, étonnante héroïne. Ton jugement toujours péremptoire, ton caractère d'acier trempé, ton rire pour mes soirs de cafard sur une photo numérisée. Toi Marcel, avec deux ailes dont une fracassée par la vie. Toi Marcel, avec deux ailes dont une fracassée par la vie. Toi Marcel, avec deux ailes dont une fracassée par la vie. Toi Marcel, avec deux ailes dont une fracassée par la vie.
RFM, votre rendez-vous avec l'insolite et la réflexion décalée, voire déjantée sur notre monde, le tout nappé d'humour, c'est de 16h30 à 18h les premiers et troisièmes vendredis du mois sur FPP 106.3, radio qui a du sens, et sur rfpp.net, streaming. Tu es aussi une performeuse, hein, tu as eu toute une période où tu faisais principalement des performances. Enfin, tu nous as un petit peu parlé là, mais...
Ah oui, dernièrement.
En citant peut-être en vrac, parce que forcément le nombre d'œuvres est tellement important que les auditeurs qui veulent se pencher un peu plus sur l'ensemble de ton œuvre, ils iront sur un site qu'on va vous indiquer tout à l'heure. Mais comme ça, tu peux citer effectivement quelques performances que tu as faites. Oui. Ou...
Alors dernièrement, justement sur mes textes qui ont été publiés aux éditions La Maison Brûlée, j'ai fait des performances sur Zoartoïst. Alors Zoartoïst, il faut quand même dire que c'est justement, je parlais de l'an 2000, ça a été un spectacle en l'an 2000. Et Zoartoïst, c'est un mot que j'ai entendu dans un rêve, au moment donné, quand je répétais, en 2000 justement, quand j'avais fait ce spectacle, qui était un théâtre d'images, sur le thème de la transformation et de la mort et de la renaissance. Et sur les mythologies, parce que les mythologies, c'est ça, c'est des transformations, c'est des personnages qui se transforment, qui meurent, qui renaissent, voilà.
Qui n'ont pas la même contingence que l'humain.
Voilà, voilà, tout à fait. Et dans la littérature, on peut se permettre ça, dans l'art, on peut mourir, renaître, se transformer.
C'est la licence poétique, voilà. Oui.
Et donc, j'ai fait plusieurs performances sur Zoartoïst, parce que c'est des fragments, c'est un texte, c'est pas des scènes, mais c'est des miroirs. Donc, il y a miroir 1, miroir 2. D'ailleurs, j'ai lu le dernier miroir, en fait. J'ai lu tout à l'heure là, le dernier miroir, qui est le miroir 15. Donc ça va du miroir 1 à 15. C'est un miroir qui explose et chaque fragment est une partie du miroir.
Là, en plus, cher public, je vois quand Catherine feuillette son ouvrage, il est agrémenté justement de ces dessins qu'elle a concoctés.
Alors oui, il y a des dessins, surtout il y a beaucoup de dessins dans la foule divinatoire des rêves.
Ouais.
Alors c'est vraiment des poèmes que j'ai écrits à partir de mes rêves. Et j'ai fait des performances là-dessus aussi. Sur le thème de la magie, du rêve bien sûr, mais aussi d'une forme de magie, de monde extraordinaire, de monde peut-être de l'enfance aussi, puisque je me suis passionnée pour mes rêves depuis que j'avais 4 ans.
C'est ça qui est étonnant.
Enfin, voilà, souvent, enfin, mais c'est ça, on reste...
Peut-être qu'on en a... plus ou moins tous, pas enfants, mais on les oublie.
Alors justement, ouais. Dedans, j'ai un rêve, justement, que j'ai mis, le dernier, c'est le rêve archaïque de l'enfance à 3 ou 4 ans. Ouais. Alors c'est un souvenir, peut-être que c'est un faux souvenir ou c'est un souvenir flou, mais enfin, en tout cas, c'est un rêve, c'est le rêve le plus ancien dont je me souviens, et dans ma mémoire, j'avais 3 ou 4 ans. Mais bon, je peux me tromper, parce que c'est tellement ancien.
Après, c'est...
Je peux me tromper, et peut-être que j'ai pas... Peut-être j'ai inventé ça, mais... je sais pas. C'est un prince charmant sur un nuage.
Mais t'as quand même suivi jusqu'à là, donc...
oui.
Donc voilà, c'est
donc
bien.
Je l'ai mis, c'était important.
Ah, oui, bien sûr,
c'est important. Et c'est des rêves que j'ai... Et tous les rêves que j'ai mis là-dedans, c'est des rêves... Il y a des rêves récents et des rêves très anciens, voilà. Donc j'ai fait des performances là-dessus. J'ai fait la bande-son, là, sur la somnambule.
Oui, ça, on vient en parler.
J'avais fait, une expo spectacle dont j'ai parlé tout à l'heure, Dollar, tous les épopées de Pimpezoué, avec des poupées sculptures, une exposition de poupées sculptures et des poèmes sur le thème de la poupée dans toutes ses déclinaisons.
Et ça, tu les performais où?
Je les ai fait souvent dans des galeries, en fait. Je les ai fait à Dax, dans une galerie qui s'appelait Arte Rimbaud.
Ah, oui.
C'est marrant parce que Arthur Rimbaud, c'est mon poète le plus ancien, celui que j'ai connu quand j'étais petite et que qui a été mon poète préféré et qui m'a influencé, voilà. Donc
pas mal comme influence.
Le premier poète que j'ai connu, c'était Arthur Rimbaud. J'ai fait aussi j'avais fait dans la Nuit Blanche au 59 Rivoli.
Ah oui, à Paris, en plein Paris là.
Et c'était la Nuit Blanche 2013 et la Nuit Blanche 2012, donc la Nuit Blanche 2013 au 59 Rivoli, j'avais fait cette exposition spectacle.
Qui est un lieu, je le dis pour les auditeurs, et qui s'en est échappé, qui est un lieu mythique, une pépinière d'artistes qui maintenant ont pignon sur rue, tout à côté du Châtelet, le long de la rue de Rivoli, donc c'est merveilleux, et on voit les artistes.
Le 59 Rivoli, on peut visiter, c'est un immeuble entier avec des ateliers d'artistes et qui est ouvert au public en permanence. Donc en fait, on peut visiter les artistes en train de travailler.
Un lieu de création en permanence.
Au 59 Rivoli, dans la Nuit Blanche 2012, j'avais fait du théâtre, une pièce de théâtre, que j'appelle théâtre poésie, qui s'appelait James Joyce fuit lorsqu'un homme sait tout à coup quelque chose. D'ailleurs, tu étais là. Ce jour-là, tu étais là. Voilà.
Et
de la Nuit Blanche, la dernière Nuit Blanche, donc c'était en 2018, j'ai fait une lecture performée de la tragédie de l'âne. Là, je suis revenue à quelque chose qui m'influence beaucoup, qui me touche beaucoup aussi, dont je n'ai pas encore parlé, c'est les textes, la tragédie grecque. Les mythologies. La mythologie, j'adore, du monde entier, et la tragédie grecque, la tragédie antique, qui me fascine.
Tu as vu ta casquette philosophe.
Oui.
Oui, non, ça
toujours. Qui me fascine, je trouve que c'est... Je suis fascinée par ces écritures extrêmement anciennes et qui sont très... très contemporain.
Oui, puisqu'on on s'y réfère toujours dans les instants et même les plus terribles.
Et j'ai l'impression qu'il y a un regain de la tragédie en ce moment, et c'est pas un hasard. Il y avait d'ailleurs les suppliantes qui étaient passées sur France Culture par un travail qu'avait fait Olivier Py, et ça ressemblait, ça parlait de la migration, des problèmes de migration qu'il y a actuellement,
C'est pour ça que,
avec les migrants. Moment,
on s'arrache les philosophes de service pour qui sont viables sans réfère, soit aux Grecs, aux Romains, etc.
Ça se trouve, j'en avais pas parlé. Moi, je suis passionnée par les rêves, mais j'en ai un petit peu parlé quand même, parce que j'ai parlé de Dionysos. Par intuition, j'avais compris que le théâtre, les arts du spectacle, c'était la danse au départ, mais parce que les arts du spectacle n'étaient pas séparés non plus à l'origine.
Il y avait la tragédie, le
théâtre, la danse, la musique.
Le
masque, le côté plastique. Donc il y avait tous les arts sur la scène. Et cette intuition.
Tu crées un petit peu cette espèce d'artiste protéiforme que tu es. Je suis assis sur un drôle de siège qui a fait partie des fois, si vous entendez quelque chose teinté, une cloche qui a toute une histoire. Ça fait partie de... C'est un vestige...
Ça fait partie de l'expo spectacle avec les objets. Ça, c'était un élément du spectacle. C'était un siège, en fait, tu vois, qui est recouvert de fourrure. De fourrure de récupération. Je lui avais mis un peu comme les vaches où elles ont des pieds. Et là, j'ai mis des cloches, des grosses cloches qu'il faut comme des pieds de vache. Et je lui avais mis un masque. Mais là, je l'ai enlevé. Il est où, ce masque? Il est par là.
Ça veut dire qu'il y en a partout.
Ah, il est là. C'était un masque. Oui, parce que t'as... Voilà,
ah oui, non, là.
J'avais mis un masque africain, masque d'animal, comme ça. Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il y a pas mal d'objets que j'ai faits, puis il y a aussi pas mal d'objets africains.
Africains, oui, j'ai remarqué. Oui, parce qu'on ne peut pas tout décrire.
Je suis assez passionnée par la,
par l'art africain, hein, l'art primitif, tout ça.
Moi, je trouve, j'adore.
On commence un peu mieux à cerner le personnage, mais c'est difficile. Hein, parce...
C'est-à-dire que, comme ça fait longtemps, un moment où je travaille, en fait...
Oui, voilà, c'est pour ça que, dernière fois, je vous avais livré partie de texte de Catherine, une petite partie de sa bande sonore. Mais là, aujourd'hui... on essaye de mieux cerner son personnage. Et on est aussi là pour vous indiquer que ce printemps des poètes, qui a lieu au début du mois de mars, et ça va se dérouler sur tout le mois de mars. Et une rencontre est organisée pour toi dans une librairie solidaire qui s'appelle Temps de lire à Aubervilliers. Tu peux nous en dire un peu plus de cet événement ?
Ben oui, c'est donc l'association Le Temps de le Dire, avec Michel Sully et toi et RFM et Daniel Grisset.
Oui, organisé par la radio.
Voilà. Et donc, ils ont un espace, ils ont la librairie, puis derrière, ils ont un grand espace qui sert à des rencontres et à des expositions. Et le 23 mars à 15h, on va faire le vernissage de l'exposition parce que je vais exposer des dessins que j'ai faits, des dessins en technique mixte avec des crayons de couleur, des stylos Bic, de l'encre. Et puis, je vais faire une lecture, je lirai des extraits de mes textes, de théâtre, des monologues, parce que je suis très, très versée dans le monologue. Et puis, des poèmes, je ferai lire des poèmes aux gens.
Donc, si vous voulez percer l'univers de Catherine, là, c'est à cette rencontre-là qu'il faut se rendre, si vous avez la possibilité, parce que vous allez un peu voir, vous allez voir ses dessins, ses peintures, vous allez l'entendre, vous allez la voir créer une performance avec vous.
Je vais essayer de faire une performance interactive, c'est ce que j'appelle les oracles poétiques. J'ai des poèmes de différentes tailles, mais j'ai aussi des poèmes très courts. Je trouve qu'un livre de poèmes, c'est un peu comme un livre d'oracle, on peut l'ouvrir au hasard, à n'importe quelle page. Je vais demander aux gens s'ils veulent bien lire chacun un poème. Et je vais faire ça aussi dans la rue, parce que j'adore les radios-trottoirs. Et puis, Aubervilliers, en plus, on a des couleurs de voix magnifiques, plein d'accents du monde entier. Ça peut être très beau.
Plus d'une centaine de nationalités, on le rappelle.
Voilà. Et donc, il y a les couleurs des poèmes, il y a la couleur des voix, les couleurs des gens.
Et autant de langues.
Donc, essayer de faire quelque chose qui soit un peu interactif. J'avais déjà fait. J'aime bien le côté radio-trottoir.
Ça avait été fait où ?
Devant le 59 Rivoli.
Le 59
on avait fait
Rivoli.
Une performance.
Oui, tout à fait.
On faisait ça, on faisait tirer des poèmes aux gens.
Oui, parce qu'en fait, je décris le 59 Rivoli, il donne vraiment sur la rue de Rivoli. Vous sortez du lieu, vous êtes dans la rue. Imaginez-vous, la rue de Rivoli, forcément, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur facilement. Donc, beaucoup de gens s'arrêtent. Donc, ne manquez pas sûrement de candidats.
Oui, tout à fait. Et j'avais fait ça aussi, j'avais oublié, parce que j'avais fait ça aussi à la journée du hasard. Ah, et puis, j'ai fait ça, j'ai oublié.
Tu as fait trop de choses.
Oui, et j'ai fait ça aussi au Festival d'Aurillac, en 2018, je suis au Festival d'Aurillac et j'ai fait les poèmes dans la rue. C'est-à-dire, je disais des poèmes dans la rue, mais aussi je demandais aux gens de dire des poèmes dans la rue.
Ça a eu beaucoup de succès, je suis.
Ce qui était amusant, c'est que en fait, après, il y a des gens qui me posaient des questions et un poème qu'ils comprenaient pas au départ, après ils le comprenaient. Et en fait, oui, ça peut être intéressant. C'est pas très intéressant d'expliquer des poèmes, mais à des gens comme ça dans la rue, de leur faire lire des poèmes et de répondre aux questions gens. Par contre, ça, c'est intéressant. Parce que c'est pas prétentieux, c'est la rue. Oui. C'est la rue qui poétise. Et on partage son univers avec des personnes rencontrées au hasard dans la rue. Et là, je trouve ça très gai.
Qui sont peut-être plus disponibles dans les villes un petit peu moins importantes. C'est plus les Parisiens, certains Parisiens qui se sentent blasés.
Là c'est en pleine rue, le poème.
Ils sont peut-être plus réceptifs à justement.
Oui, moi je trouvais que c'était assez agréable. Et comme j'appelais ça des oracles, et il y avait des gens, ça tombait pile. Hein. Ils me disaient, mais oui, mais c'est vrai oracle. Oui. Ça tombe pile avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui.
Du coup, tu as une consultation régulière.
Oui. À la journée du hasard, il y avait un homme, il venait, c'est pas très drôle, mais il sortait d'une rupture amoureuse. Il a tiré un oracle où il a tiré un poème qui parlait de rupture amoureuse et qui se terminait par relation avorté par votre orgueil mal placé. Il a explosé de rire. Et ça, c'était la fin du poème. C'était pas la totalité du poème. Et il a retiré l'oracle. Il a voulu retirer l'oracle le jour suivant. Et il est encore tombé sur un oracle, sur la rupture, un poème sur la rupture amoureuse. Et alors, il a cru que non seulement j'étais poète, mais j'avais des dons de voyance avec la
poésie. Ou alors, il avait été trahi par sa famille.
Non, je sais pas. Voilà. Mais c'est drôle. Et à Aurillac, quelque chose de très amusant, c'est un homme qui avait très belle allure, comme un espèce de dandy diabolique, parce qu'il avait une paire de lunettes avec un verre noir, oui. Et de l'autre côté, il n'y avait pas de verre comme ça. Oui. Donc, et puis, il était très élégant, grand comme ça, très dandy. Et oui. C'était très étonnant, quelqu'un qui a une lunette...
J'imagine. Ça devait être une personnalité, du coup. Enfin, quelqu'un qui était
connu. Voilà, il a tiré un poème... Oui, oui. Sur Satan. Il aurait très bien pu jouer Satan dans un film.
Satan
comme un séducteur, parce qu'il était très beau, très élégant comme ça. Mais par contre, il a été très étrange, parce qu'il avait un seul verre à ses lunettes, un seul verre noir, et l'autre, il n'y avait pas de verre. Ouais. Voilà.
Le philosophe dirait qu'il n'y a pas de hasard, mais...
Oui, voilà.
Donc, raison de plus, si vous le pouvez, vous rendre à cet après-midi, parce que c'est dans des horaires tout à fait décents, c'est entre 15h et 17h, 18h.
Je pense entre 15h et 18h. Donc, ou 17h30.
On rappelle l'adresse.
À la librairie solidaire ou à la librairie galerie, parce que il y a vraiment un espace d'exposition, le temps de lire.
Voilà, c'est le nom de la librairie solidaire, mais à l'intérieur, c'est une.
Il faut dire l'adresse.
Oui, bien sûr.
Alors 167 rue André Carman à Aubervilliers. Donc le métro le plus proche, c'est Aubervilliers Pantacat Chemin.
Oui,
et
oui.
À pied, ça met quoi, 10 minutes à pied ou un truc comme ça?
À peine.
Si on veut pas marcher, on peut prendre le bus. Il y a deux ou trois stations de bus. C'est André Carman.
C'est tout à fait
voilà. À côté du théâtre de la Comédie.
Pour ceux qui sont les habitués, et aussi notre public Alberti Villarien, qui est quand même important pour notre émission. Donc eux, ils connaissent très bien. Donc l'association, le temps de le dire. Qui invite Catherine Gilles-Alcala à cette rencontre.
Voilà.
J'ai bien dit.
Tu vois, et donc, on boira un verre aussi, on grignotera.
C'est toujours des réunions très conviviales, bien sûr. Voilà. Tout ça dans le cadre du Printemps des Poètes. Tu peux peut-être aussi nous rappeler, pour ceux qui veulent aller te voir, voir ton œuvre sur Internet.
Il suffit de
quelques détails sur ton site.
Ah oui, alors j'ai un site, tout à fait. De toute façon, si vous tapez mon nom, Catherine Gilles Alcala, en trois mots, Catherine Gilles, G-I-L, et Alcala, A-L-C-A-L-A, il n'y a pas de tiret, mon nom c'est Gilles Alcala. Oui. Vous tombez tout de suite sur mon site. De toute façon, mon site c'est La Maison Brûlée, c'est www.lamaisonbrûlée.fr. Voilà. Et là, il y a mes textes. Il y a plein de vidéos, il y a des bandes-sons, il y a des dessins. Il y a aussi des articles de presse ou des chroniques qui parlent de moi. Comme ça, vous avez la vie des autres, vous n'avez pas que ma propre.
Enfin, j'en doute pas des propos élogieux, sûrement. Je les connais un petit peu. Donc, tu as regardé.
Et puis, il y a les éditions La Maison Brûlée, donc créées par Joël Marrette, avec mes livres, et on peut lire des extraits de mes livres, voilà. Et puis mes livres, si on veut lire mes livres, on peut les commander dans toutes les librairies de France, et même à l'étranger.
Ils sont bien distribués.
Ils sont en librairie, on peut les commander. Sur le site des éditions La Maison Brûlée. Il suffit de taper les éditions La Maison Brûlée sur Google. Et il y a toutes les librairies où on peut trouver les livres. Et sinon, on peut les commander dans n'importe quelle librairie. Voilà. Sinon, pour les gens qui sont fauchés, parce qu'il y a des gens qui sont fauchés, mes livres, ils sont aussi en bibliothèque. Voilà. Ils sont en bibliothèque, dans plusieurs bibliothèques à Paris. C'est sur le site des éditions La Maison Brûlée. Elles sont répertoriées. Et donc, dans plusieurs bibliothèques, mais en France aussi, dans toute la France.
Oui.
Et puis aussi à l'étranger. J'ai même des livres Bah, au Canada, à Haïti même, en Afrique, au Bénin, au Sénégal, en Allemagne, en Suisse, en Belgique. Je suis super contente. Mais c'est parce que j'ai mes livres distribués dans des... et qui ont été...
traduits, certains ont été...
Non, pas traduits encore.
Donc, ils sont lus en français dans le texte.
Voilà, dans le monde entier, on peut trouver mes... Bah, pas partout, mais dans beaucoup de bibliothèques du monde entier.
D'accord. Et en France, j'espère Aubervilliers également. Nous allons y remédier.
C'est comme on dit, nul n'est prophète.
Oui, c'est bien.
Bon, et à Aubervilliers, il n'y a pas mes livres à la bibliothèque.
L'imposition.
Donc, je lance un appel à la bibliothécaire d'Aubervilliers. Oui. Surtout qu'Aubervilliers, les gens ne sont pas riches, alors il faut...
Et il y a pourtant pas mal de médiathèques, donc
Ça serait bien qu'on puisse trouver mes livres en bibliothèque à Aubervilliers. Sinon, vous prenez le métro, vous allez à Paris... Et vous pouvez lire mes livres, même à Beaubourg. Donc je frime un peu, ça me fait plaisir. Parce que ce qui est important, c'est pas juste de vendre mes livres. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse les lire. Bah oui.
Alors bien sûr, si vous arrivez ce samedi 23 avec en main un de ces ouvrages, vous le dédicacera sûrement avec joie.
Voilà, puis il y en aura aussi, je pourrai en vendre sur place.
Il y en aura. Alors, aussi, c'est la précision, donc vous pourrez. Je crois que c'est une belle journée qui se profile. Et puis après, c'est le mois de la poésie, donc n'hésitez pas, créez vous-même la poésie, n'est-ce pas?
Surtout, Aubervilliers n'a pas toujours une bonne réputation, mais Aubervilliers, c'est une ville très poétique.
C'est une ville de création, surtout, artistique, qui n'est pas toujours bien connue. Mais il y a beaucoup de lieux qui sont inconnus où on crée, y compris dans les mots. Dans les mots recherchés, etc.
Oui. C'est une ville très, très colorée, avec des gens du monde entier. C'est ça qui est poétique aussi.
Eh bien, on va les écouter d'ailleurs après, avec tes micro-trottoirs. Bah, écoute, Catherine, merci beaucoup de nous avoir accueillis à RF dans ton local, ton lieu de vie, ton lieu de création, et pour l'instant, magnifiquement ensoleillé. On se croirait à Haïti, là. On cligne des yeux, on n'a pas bien de soleil.
Au revoir, Catherine. Au revoir, merci beaucoup.
C'est nous qui te remercions. Au revoir.